L'actualité francophone au Canada, une découverte scientifique fait la une de la presse. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou, en Belgique. Le gouvernement met de l'ordre dans l'économie collaborative. La hausse de l'âge de la retraite est au cœur des débats au Parlement suisse. Et en France, nouveau rebondissement dans la campagne présidentielle. François Fillon probablement mis en examen. Mais on commence bien sûr par nos portraits de la semaine. Laurent Corot, vous nous faites le portrait d'un footballeur togolais devenu un héros en République tchèque.
Il s'appelle Francis Koné, il est attaquant du FC Slovako et en plein match le week-end dernier, eh bien le gardien de l'équipe adverse s'écroule, inconscient après un choc. Il est en train d'avaler sa langue et risque donc de s'étouffer. Francis Koné se précipite et lui sauve la vie. Un geste unanimement salué alors que le joueur était régulièrement la cible d'injures racistes et de cris de singe. Comme d'autres joueurs africains. Francis Koné espère que son geste permettra de faire évoluer les mentalités.
En Suisse, Nadine Altiner, c'est l'ancienne procureure du tribunal pénal international Carla Del Ponte qui s'est illustrée cette semaine.
Et oui, cette Suisse italienne qui affiche 70 printemps a passé une partie de sa vie à chasser les criminels de guerre. Elle n'a pas sourcillé cette semaine en déclarant que le président syrien Bachar al-Assad est au top des criminels qu'elle a pu connaître. Membre de la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie, Carla Del Ponte affirme que c'est bel et bien l'armée syrienne qui a visé un convoi humanitaire à Alep en septembre. Elle exige à présent l'ouverture d'un procès contre le président syrien, mais cette femme de poigne admet que sa tâche sera difficile. Le propre des procureurs, dit-elle, est d'apprendre à gérer les frustrations.
Benoît Audet au Canada, votre personnalité de la semaine est un ancien joueur de hockey.
Oui, Maurice Richard, véritable héros national au Québec, le plus grand joueur de la glorieuse histoire des Canadiens de Montréal. Cette semaine, on a annoncé qu'une circonscription électorale porterait désormais son nom à Montréal. La circonscription de Crémazie deviendra donc Maurice Richard pour honorer le hockeyeur mort en 2000. Octave Crémazie est considéré comme le premier poète national du Québec, mais son nom n'est pas rayé de la mémoire collective. Un boulevard et une station de métro de Montréal porteront toujours son nom.
En Belgique, Nathalie Devic, c'est un célèbre personnage que l'on fête cette semaine.
60 ans et toujours aussi fringant. Avec son pull vert trop étroit, ses cheveux en bataille et son air nonchalant, il a traversé le temps sans prendre une ride. Si je vous dis, ben ça, bof, mais non, vous l'avez ? Gaston, enfin, le roi de la gaffe. Même sa naissance est un gag le 28 février 57 pour combler un trou dans le journal Spirou. Depuis, la gaffe en a vécu un bon millier de gags sous la plume de son créateur, André Franquin, décédé il y a 20 ans. Gaston, c'est 19 albums, 900 planches, 30 millions d'exemplaires vendus. Et pourtant, Rank Tutu, rien ne destinait ce garçon de bureau anti-système, anti-héros, à devenir ce personnage mythique, toujours vivace à 60 balais. Comme quoi, être la plus grande feignasse de la BD, ça conserve. Ses aventures sortiront même au cinéma l'an prochain.
En France, pas de personnalité de la semaine, mais un objet qui pourrait à terme calmer les tensions entre les jeunes des banlieues et la police. Mercredi, le décret autorisant l'entrée en vigueur des caméras piétons anti-bavures portées par des policiers a été publié. Expérimenté depuis 3 ans sur certains sites, le dispositif est désormais obligatoire. Il sera tout de même testé jusqu'en juin 2018 dans 23 zones de sécurité prioritaire. Alors que le débat sur les rapports entre la police et la population a été relancé par l'affaire Théo en Seine-Saint-Denis, le gouvernement estime que ce dispositif devrait à terme apaiser la relation lors d'un contrôle policier. Au Canada, une découverte scientifique fait la manchette cette semaine. Cette découverte dans le nord du Québec pourrait faire reculer de quelques millions d'années les premiers signes de l'apparition sur Terre de la vie, Benoît Audet.
Oui, les traces qui appuient cette avancée scientifique sont petites, infiniment petites. Il s'agit de micro-organismes fossilisés retrouvés sur la côte est de la baie d'Hudson. Ces micro-organismes dateraient d'au moins 3,8 milliards d'années et probablement même de 4,3 milliards d'années. Le professeur Jonathan O'Neill de l'Université d'Ottawa est un des chercheurs qui a participé à ce projet.
Mais en fait, ça nous donne un peu une image de dans quel genre d'environnement la vie a pu débuter sur Terre. Et on voit que cet environnement-là, c'est un environnement qui est très similaire au fond océanique qu'on a aujourd'hui. Un peu différent, mais quand même aussi similaire. Donc, un fond océanique, du volcanisme sous-marin, des zones de circulation d'eau chaude, hydrothermale.
Alors, au-delà de repousser encore plus loin le début de la vie sur Terre, à quoi cette découverte, Benoît, pourrait-elle servir?
Les chercheurs croient qu'elle pourrait nous aider à déterminer s'il y a de la vie sur d'autres planètes comme Mars. Chose certaine, pour le moment, on repousse les limites de notre compréhension de la vie sur Terre. Cette découverte repousse probablement à plus de 4 milliards d'années les premiers signes de l'apparition de la vie sur notre planète. On se sent donc bien petit. Les premiers hominidés ont commencé à se déplacer sur deux jambes il n'y a que 6 millions d'années.
En Suisse, Nadine Altiner, la hausse de l'âge de la retraite était au cœur des débats du Parlement.
Et c'est même le débat politique de l'année au centre des discussions, une question qui concerne la plupart des pays occidentaux. Comment assurer des rentes convenables pour les retraités tout en faisant face au vieillissement de la population? Et l'enjeu est de taille. Selon les statistiques, la population suisse âgée de plus de 65 ans va croître de 84% d'ici 30 ans.
Alors les deux chambres fédérales ont donc fort à faire pour trouver une solution.
Elles souhaitent que la réforme entre en vigueur l'an prochain. Elles se sont déjà mises d'accord pour relever l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Mais la bataille tourne à présent autour du financement des prestations. Gauche et droite s'opposent sur les mesures à prendre pour que les retraités ne perdent pas d'argent. La droite menace même d'augmenter l'âge de la retraite à 67 ans pour tout le monde si l'assurance vieillesse reste dans les chiffres rouges. Résultat, beaucoup craignent que la réforme n'aboutisse jamais. Mais pour Olivier Ferrari, conseiller en fonds de pension, la Suisse n'a plus le choix.
Nous sommes dans une économie aboutie dans les pays développés. C'est un phénomène mondial. Je m'explique. Nous étions dans une pyramide à la base. Aujourd'hui, vous prenez la bouteille du vin que vous voulez, avec un goulet qui vient de plus en plus grand parce qu'on arrive vers des gens de 80, 90 ans, 100 ans qui vont arriver et ceux-ci vont avoir des retraites de plus en plus longues. Donc, il faut être conscient de cette mutation de la société. On n'est pas comme des pays africains où on est encore dans une énorme pyramide.
Le système doit donc être réformé et les Suisses auront sans doute le dernier mot, eux qui préfèrent les solutions équilibrées. Comme ils l'ont rappelé lors d'une votation en septembre dernier, ils étaient alors les seuls citoyens au monde à refuser une hausse généralisée des retraites versées par l'État.
Votre sujet de la semaine en Afrique, Laurent Corot, c'est le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision, et ça se passe à Ouagadougou.
Oui, 25e édition de ce grand rendez-vous qui a lieu tous les deux ans dans la capitale du Burkina Faso. 150 films projetés, 20 en compétition pour les talons d'or. À Ouaga, on pouvait croiser des réalisateurs qui posent leur caméra là où ça fait mal, en abordant des sujets difficiles, violence policière, dirigeants cupides, trafic de drogue par exemple, dans Woulou du Malien Daouda Koulibaly, des réalisateurs confirmés, mais aussi une jeune classe qui monte, par exemple, la Burkinabé Apolline Traoré et son film Frontières, un road movie de femmes entre le Sénégal et le Nigeria, des commerçantes sans cesse harcelées ou raquettées.
Vous n'avez pas de carnet de vaccination?
Carnet de vaccination? Eh ouais, je ne savais pas qu'il fallait que je voyage avec.
Je ne peux pas vous laisser passer comme ça. Vous allez payer une amende.
Une femme à l'honneur aussi d'en féliciter du franco-sénégalais Alain Gomis, l'histoire d'une mère courage à Kinshasa, déjà récompensée au Festival de Berlin.
Un FESPACO qui se déroule sous très haute surveillance.
Oui, un peu plus d'un an après l'attaque terroriste qui a visé Ouagadougou et après les élections démocratiques de décembre 2015. Ce festival se veut celui du renouveau malgré les difficultés du 7e art africain qui persistent. Problèmes de financement ou de diffusion, les salles de cinéma sont rares sur le continent. Mais les chaînes de télévision, elles, ne veulent plus se reposer sur des productions occidentales ou sud-américaines. Elles ont besoin de plus en plus de films ou de téléfilms africains de qualité.
En France, mercredi, nouvelle journée à rebondissement dans la campagne présidentielle. Tôt le matin, François Fillon, toujours en proie à des difficultés dans le Penelope Gate, annonce qu'il annule sa visite au Salon de l'agriculture et il convoque dans la foulée pour la mi-journée une conférence de presse. Tous les barons du parti Les Républicains sont également convoqués. François Fillon s'entretient avec Alain Juppé, avec Nicolas Sarkozy. La rumeur de son retrait enfle au fur et à mesure de la matinée. Selon plusieurs sources, François Fillon aurait même hésité avant de prendre une décision. Mais lorsqu'à 12h30, il prend la parole, c'est pour annoncer sa convocation le 15 mars par un juge d'instruction pour une probable mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme. Il annonce qu'il ne se retirera pas et il s'en prend violemment à la justice.
Que je ne sois pas injusticiable comme les autres, on le voit au simple choix de cette date du 15 mars, deux jours avant la clôture des parrainages. Entièrement calculé pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle et au-delà pour empêcher la droite et le centre de disposer d'un candidat. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle.
Le problème pour le candidat, c'est que cette violente attaque ne passe pas dans son propre camp. François Fillon avait en effet déclaré il y a quelques semaines que s'il était mis en examen, il démissionnerait. Bruno Le Maire a invoqué le respect de la parole donnée pour quitter ses fonctions dans l'équipe de campagne. Thierry Soler, son porte-parole, a fait de même. Les centristes de l'UDI ont pris leur distance. François Fillon appelle désormais les Français à résister. Une grande manifestation de soutien doit avoir lieu dimanche au Trocadéro à Paris, place des droits de l'homme. Mais là aussi, ce rassemblement est vu comme une croisade anti-magistrat et il fait polémique à droite. En Belgique, Nathalie De Vic, le gouvernement met de l'ordre dans ce qu'on appelle l'économie collaborative.
Une économie très en vogue aujourd'hui. Elle met en rapport des particuliers qui cherchent ou proposent de menus services, babysitting, coup de main dans la maison ou le jardin, des missions souvent courtes et ponctuelles. Le contact est établi par des plateformes installées en ligne sur le net. Mais paradoxalement, si ce type de service connaît de plus en plus de succès, il échappe en grande partie aux impôts, car le prestataire oublie bien souvent de le déclarer. Compréhensible, vu la taxe appliquée jusqu'il y a peu, 33%, le montant prévu pour les revenus occasionnels. Le gouvernement a donc décidé de changer le système avec une nouvelle taxe spécifique, bien moins élevée, 10%, désormais prélevée directement par la plateforme sur la somme qu'elle perçoit et qu'elle reverse ensuite au prestataire. Ce n'est donc plus à lui qu'incombe la responsabilité de déclarer son activité. Pour Jonathan Chocart, fondateur de l'une de ces plateformes, 10 minutes, c'est un vrai progrès.
Et donc là, aujourd'hui, ça offre un cadre qui est beaucoup plus clair aussi. En offrant un taux d'imposition qui est de 10% sur le montant brut, je pense que ça a aussi été la volonté du gouvernement de ne pas mettre un taux d'imposition trop élevé, justement pour encourager les gens à pouvoir le faire dans les règles.
L'objectif de ce nouveau cadre fiscal est donc très clairement d'inciter les fraudeurs ou les distraits à rentrer dans la légalité tout en régulant ce nouveau pan d'économie. Car ces plateformes qui jouent le rôle d'intermédiaires doivent parallèlement demander leur reconnaissance à l'administration des finances pour être agréées. Seules quelques grosses plateformes y échappent encore, comme le bien connu Airbnb pour des raisons plus techniques ou encore Uber, dont le service voiture emploie non pas des particuliers mais des professionnels. Bref, ce nouveau compromis semble contenter tout le monde, sauf sans doute ceux qui voudront continuer à travailler au noir. Ça leur sera désormais plus compliqué.
C'était l'actualité francophone. Vous pouvez nous retrouver sur mediafrancophone.org.